Midi exceptionnel, en direct et en public, du Cabaret Sauvage du Parc de la Villette, samedi 11 octobre, de 13h30 à 21h. Vos messages viendront nourrir les débats. Dès maintenant, participez au forum de discussion sur franceculture.com.
France Culture, il est midi. Michel Albergonti et ses invités débattent de la vulnérabilité du système d'exploitation le plus utilisé au monde, Windows, face à l'importante propagation récente de virus. Faut-il, oui ou non, se passer de Windows? C'est tout de suite dans Science Friction.
Friction.
La prolifération des virus informatiques ne cesse de s'aggraver. Récemment, le virus Blaster a ainsi provoqué de nombreux dégâts sur les 5 continents en se propageant sur Internet à très grande vitesse. Pour se répliquer sur le réseau, les programmes malins utilisent des failles de sécurité dans le système d'exploitation Windows, le logiciel phare de Microsoft qui règne sans partage sur l'informatique mondiale. Plus récemment, les virus SOBIG et SVEN ont également infecté un grand nombre d'ordinateurs fonctionnant sous Windows. Les attaques de virus posent une fois de plus la question des inconvénients, voire des dangers de la prééminence du système d'exploitation de Microsoft. Ainsi, plusieurs pays d'Asie ont décidé de développer une alternative à Windows basée sur le célèbre système d'exploitation Linux. Cette annonce a provoqué des réactions courroucées de la part de la firme de Bill Gates. Et pour cause, Linux fait de plus en plus d'ombre à son concurrent américain, même si pour l'instant, il n'a pas entamé sa domination. De grandes entreprises, mais aussi des États, cherchent pourtant des alternatives à Windows pour se prémunir, entre autres, contre ces failles multiples de sécurité découvertes et exploitées par les pirates. Est-il urgent de se passer de Windows ou du moins de briser son quasi-monopole? Les alternatives sont-elles crédibles et réellement prêtes à remplacer le système d'exploitation de Microsoft? Un tel remplacement est-il possible et souhaitable? Et ou bien est-il déjà trop tard? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui dans Science Friction Frédéric Couchet, président de l'Association pour la promotion de la recherche en informatique libre, l'April, et président de la branche française de la Free Software Foundation, ainsi que Roberto Di Cosmo, chercheur au laboratoire Preuve, Programmes et Systèmes de l'Université Paris 7. Précisons d'emblée que nous avons invité Microsoft à participer à cette émission, mais que la filiale française de cette entreprise n'a pas souhaité débattre avec notre premier invité, c'est-à-dire vous-même, Roberto Di Cosmo. Il ne s'agit pourtant pas pour nous d'instruire un quelconque procès de Microsoft, mais bien de mieux comprendre certains effets pervers de son succès commercial. Alors, Roberto Di Cosmo, vous êtes connu comme l'un des principaux détracteurs de Microsoft, mais aujourd'hui, le but de cette émission est d'expliquer un petit peu à nos auditeurs comment le système Windows attire d'une certaine façon les virus.
Oui, voilà. Bonjour, merci de m'avoir invité à cette émission. Et tout d'abord, je vais être tout à fait d'accord avec vous, de regretter que Microsoft ne soit pas présent. Pour une fois, vous dites que je suis un grand détracteur de l'entreprise. Pour une fois, j'aurais eu l'occasion de leur apporter ma solidarité dans une sombre question des brevets en Californie, dans laquelle ils sont mêlés en ce moment. Mais alors, on va essayer de le faire à la prochaine occasion. Et concentrons-nous donc sur le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Comme vous voulez, on souhaite qu'on explique à nos éditeurs qu'est-ce que c'est vraiment un virus? Pourquoi se passent des choses aussi graves que celles qui se sont passées cet été? Et est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de neuf dans ce qui est arrivé cet été par rapport à ce qui se passait déjà dans les dizaines d'années précédentes?
Voilà, c'est quand même un très vieux phénomène.
C'est un très vieux phénomène. Donc ça a quand même explosé cet été. Je vais essayer d'expliquer un peu ça assez clairement. Alors commençons par les bases. Donc qu'est-ce que c'est un virus? Parce qu'on en parle tellement souvent et ça donne des analogies avec les organismes biologiques, mais en réalité c'est quelque chose de beaucoup plus simple que ça. Donc un virus, c'est juste un tout petit logiciel informatique qui est capable de se dupliquer. Ça, c'est la définition d'un virus.
Donc de se reproduire.
De se reproduire. Mais alors c'est pour ça qu'on fait l'analogie avec les termes virus biologiques. Mais alors il faut savoir quand même, en informatique, il y a des théorèmes, même si c'est une science souvent nommée comme une science expérimentale, il y a des petits théorèmes qu'on montre quand vous enseignez à l'université, c'est que n'importe quel langage de programmation suffisamment puissant permet d'écrire des virus, autrement dit, permet d'écrire des logiciels capables de se répliquer. Il n'y a rien de mal à ça. C'est même très nécessaire de savoir se répliquer, il faut faire des choses intéressantes.
Jusque-là, rien de dangereux.
Rien de dangereux. Alors, ce qui devient dangereux, c'est quand le logiciel qui est capable de se répliquer, il peut passer d'une machine à l'autre sans que la personne qui l'exécute en soit au courant, et une fois qu'il arrive sur l'autre machine, puisse faire des choses que l'utilisateur de la machine n'apprécie pas spécialement, comme effacer ses fichiers, envoyer des faux messages électroniques partout, etc. Donc il faut bien comprendre, donc un logiciel qui se duplique, ça c'est tout à fait normal. Le problème est ailleurs, c'est dans les politiques de sécurité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher qu'un logiciel qui essaye de se dupliquer fasse des dommages ou se transmette sur une autre machine.
Bon, ça, on va y venir, mais par exemple sur les effets, pour préciser, alors évidemment il y a l'effacement de fichiers qui est toujours très très inquiétant. Il y a eu apparemment l'un de ceux de cet été qui provoquait l'arrêt de la machine au bout d'un temps très court, d'une minute je crois, ce qui empêchait complètement par exemple de mettre à jour les outils qui permettent de se protéger contre les virus, qui sont les antivirus. Donc il y a de multiples effets induits par l'action des virus.
Mais absolument, il n'y a pas de limite à ce qui peut faire un virus dans un système mal protégé. Alors, c'est pas seulement des systèmes Microsoft qui peuvent être mal protégés, mais c'est vrai que c'est un peu la spécialité des systèmes Microsoft d'être mal protégés aujourd'hui. Et la limite, c'est l'imagination dès qu'il y a écrit un virus. Donc, on a tout vu là-dedans, malheureusement.
Frédéric Couchet, pourquoi finalement Microsoft est-elle une cible aussi souvent utilisée par les créateurs de virus?
Je dirais que déjà il y a deux raisons principales. La première, c'est que l'absence totale de politique de sécurité réelle chez Microsoft rend l'écriture de virus et surtout leur propagation beaucoup plus facile. Ça, c'est une première raison par rapport au système, par exemple, Unix, où il y a une sécurité qui est quand même beaucoup plus évoluée. Par exemple, un utilisateur normal sur un système de type Unix ne peut pas détruire l'ensemble du système, ce qui est le cas sur la plupart des systèmes de Windows. Et même quand Windows met en place des systèmes de sécurité, il prévoit des systèmes qui permettent finalement à l'utilisateur de faire n'importe quoi, type les activistes, X ou les scripts visuels basiques qui finalement contournent les problèmes de sécurité.
Donc, déjà, c'est des fonctionnalités.
C'est des fonctionnalités qui sont rajoutées qui finalement contournent en fait la sécurité de base du système, ce qui fait qu'un utilisateur peut finalement détruire sa machine alors qu'il n'en avait a priori pas le droit.
Donc, quel est l'intérêt de Microsoft à ne pas se protéger contre ou si mal protéger son système d'exploitation contre les attaques de virus?
Quel intérêt? Déjà, l'intérêt, je dirais que ce qu'il faut voir, c'est que Microsoft fonctionne son développement sur, non pas, je dirais, créer un système qui soit stable, qui soit robuste, mais créer un système dont l'utilisateur a besoin de mettre à jour régulièrement. Donc, de rendre captif l'utilisateur de façon régulière. Donc ça participe au développement, je dirais, des virus, tout simplement, parce que le système étant pas fiable et devant être mis à jour régulièrement, finalement, les virus se propagent très rapidement.
Donc là, vous parlez des mises à jour
de sécurité ou autre. Aujourd'hui, l'intérêt de quelqu'un comme Microsoft, d'un éditeur comme Microsoft, c'est rendre prisonnier ses utilisateurs pour créer un monopole et obliger l'utilisateur à se resservir, je dirais, à la même soupe, entre guillemets, la prochaine fois. Et d'ailleurs, la deuxième raison, je vais parler de deux raisons sur la propagation des virus chez Microsoft, la deuxième, elle est finalement écologique, en fait. Quand vous avez un système qui est ultra dominant, si vous créez un virus sur un système ultra dominant, il est évident qu'il va se propager très rapidement par rapport à une niche écologique. Vous avez des espèces qui sont très différentes, là, un virus se propagera de façon très, très difficile. Donc le fait même que Microsoft ait un monopole sur les postes de travail rend la diffusion des virus quasiment inéluctable.
Là, donc c'est le parallèle biologique avec l'absence de diversité. Absolument. Finalement dans l'univers informatique. Pour vous, Roberto Di Cosmo, l'absence de politique de sécurité ou du moins d'efficacité de cette politique chez Microsoft est due à cette volonté aussi de rendre un peu prisonniers les utilisateurs, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons?
Je partage tout à fait l'avis de M. Couchet. Je rajouterai quelque chose d'autre. Il ne faut pas oublier que Microsoft est une entreprise qui est en position de monopole depuis un certain temps et que les soucis de sécurité ne sont que très tardifs dans la conception de leur système. Donc, maintenant, ils ont mis en place toute une task force, tout un groupe qui va réfléchir à comment rendre tout ça beaucoup plus sûr, etc. Parce qu'ils ont découvert qu'enfin les marchés le demandent de façon massive. Et surtout qu'il y a des concurrents dangereux comme les logiciels libres, ceux qui peuvent rafler les marchés des systèmes sûrs. Mais jusque-là, ils ignoraient totalement la question. C'est-à-dire, il y a quelques années, vous pouvez demander à quelques responsables Microsoft et vous disiez tout simplement que s'il y a des problèmes de sécurité, c'est la faute à l'utilisateur qui ne sait pas utiliser sa machine. C'est une attitude que, disons, nous, dans le monde académique, on n'accepte pas beaucoup, quoi.
Frédéric Couchet.
Oui, d'ailleurs, quand on parle, effectivement, comme M. Di Cosmo parle de la relative... le fait qu'une politique de sécurité soit relativement nouvelle chez Microsoft, il faut souvenir que finalement les premiers virus en fait sont nés plutôt chez Unix au tout début, à l'époque où il n'y avait pas trop de politique de sécurité. Unix a une trentaine d'années, en 30 ans effectivement il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur les aspects sécurité, et aujourd'hui les systèmes Unix sont beaucoup plus sécurs. Donc c'est pour ça aussi que les virus se développent beaucoup plus sur Microsoft, parce que la prise en compte tardive de ces problèmes de sécurité fait évidemment qu'il est très difficile de les contrer, surtout avec la plateforme très très variée, je dirais, qui est installée aujourd'hui.
Alors, vous parlez d'Unix, peut-être il est utile de préciser, puisqu'on va revenir à l'un de ces de ses successeurs ou...
Bah, Unix, pour résumer très simplement, c'est un système qui a été créé par ATT aux États-Unis avec une très forte contribution de diverses universités. C'est un système qui est multi-utilisateur, sur lequel plusieurs utilisateurs peuvent travailler, et avec une conception, je dirais, par briques, avec des processus qui travaillent chacun de leur côté, qui ne peuvent pas, par exemple, aller dans l'espace mémoire d'un autre programme, avec des utilisateurs qui ont chacun de leurs zones réservées. Et ce système est très utilisé, notamment dans les grandes entreprises. Et aujourd'hui, se développe de versions libres d'Unix, telles que FreeBSD, GNU Linux, etc., qui permettent d'être utilisées sur un poste de travail avec la même notion de sécurité, ce qui la rend beaucoup plus, effectivement, imperméable aux attaques du type virus.
Alors, Bertrand Dicosmo, dans Windows même, quelle est la structure qui favorise, finalement, cette vulnérabilité au virus?
Ben, si vous voulez, la conception du système Windows est assez sophistiquée et complexe, mais ce que vous regardez, c'est une constante dans le développement de ces systèmes. Ça a été toujours de favoriser l'utilisabilité, la facilité d'usage pour l'utilisateur final par rapport à tout ce qui est le reste, donc la sécurité en général. Donc on souhaite que vous puissiez utiliser votre logiciel chez vous, ça devient une deuxième nature chez vous d'utiliser le logiciel. Même, on souhaiterait que vous identifiez l'informatique, si vous voulez, avec ces logiciels Microsoft que vous utilisez. C'est une démarche commerciale tout à fait naturelle. Le problème, c'est que si vous faites ça, si vous essayez de rendre très flexible votre système, très adaptable, très modifiable par l'utilisateur, sans, par contre, lui donner les clés pour le modifier vraiment, c'est-à-dire sans lui donner les codes sources du système, vous êtes un peu obligé de mettre en place tout un tas de mécanismes, comme des petits systèmes de scripting. Donc, qu'est-ce que c'est le scripting? Ça veut dire que vous pouvez créer des tout petits programmes qui font comme si c'était vous qui cliquez à tel ou tel autre endroit dans le logiciel. Tout ce qu'on peut faire en cliquant, on peut aussi le faire par un petit script. Et ces petits scripts, normalement, sont inclus dans des documents Word, ils sont inclus dans des documents Excel, ils sont inclus dans des courriers électroniques. Et vous, sans les savoir, en cliquant sur quelque chose qui ressemble à un document lisible, en réalité, vous déclenchez un de ces scripts qui peut faire n'importe quoi. Il peut ouvrir votre logiciel de courrier électronique, récupérer des adresses électroniques, envoyer des courriers à quelqu'un d'autre, faire des fausses transactions bancaires sur votre compte en banque. Ça s'était démontré dans les vieux temps, en 98 déjà, en utilisant ActiveX par nos chers amis en Allemagne. Ça avait fait pas mal de bruit à l'époque, dans tous ces types de choses. Donc, pourquoi c'est mis en place? Parce qu'en réalité, vous pouvez pas vraiment modifier les systèmes vous-même. Ça, c'est gardé.
La philosophie, c'est quand même de laisser l'utilisateur avoir une grande liberté d'action. C'est un peu la philosophie de départ. Ça, c'est ce que
liberté,
vous décrivez.
Liberté très contrôlée. C'est-à-dire, on peut adapter, flexibiliser vos logiciels pour les adapter à votre nécessité, mais sans jamais regarder comment est-ce qu'ils sont faits dedans. Et donc là, il y a des contraintes qui font en sorte que vous mettez en place des systèmes qui ouvrent des gros trous de sécurité. C'est ça un peu le problème.
Frédéric Couchet, quels sont ces gros trous de sécurité? Est-ce qu'on peut résumer les endroits particulièrement fragiles du système Windows? On a parlé du système lui-même, mais aussi peut-être du navigateur.
Je dirais que tous les endroits du système Windows sont fragiles. Il n'y a pas que la porte, les fenêtres, etc. Aujourd'hui, effectivement, on constate qu'il y a différents types de virus ou d'attaques que subit Microsoft. Le simple fait d'envoyer un courrier électronique, effectivement, est potentiellement dangereux aujourd'hui. Un navigateur, effectivement, peut renfermer du code qui peut aller lire vos données sur votre disque dur sans que vous en soyez au courant. Quand tout à l'heure Roberto parlait effectivement du fait qu'on laisse à l'utilisateur la possibilité de faire beaucoup de choses, c'est vrai que c'est une liberté, mais c'est une liberté encadrée. Et ce qui manque principalement, c'est la sensibilisation aux conséquences des actes. Aujourd'hui, les utilisateurs de Windows double-cliquent à tout va-va sur des fichiers qui arrivent sans se dire finalement, est-ce que c'est bien un document? Est-ce qu'il va contenir du code exécutable qui va peut-être avoir une action sur ma machine? Et je pense que dans les entreprises notamment, l'un des gros problèmes, c'est qu'il n'y a pas de sensibilisation aux aspects sécurité, à la fois des utilisateurs, mais aussi des administrateurs réseau. Je dirais qu'à la limite, aujourd'hui, chez Microsoft, chez Windows, on essaye de guérir le problème, c'est-à-dire installer un antivirus, une nouvelle version d'un antivirus, alors qu'en fait, il faut prévenir le problème. Avec une vraie politique de sécurité, une sensibilisation des utilisateurs au fait que quand ils font une action sur une machine, ça a un impact. Mais c'est vrai qu'en même temps, on peut pas leur demander de comprendre que ça a un impact si on leur donne pas les clés pour comprendre quel impact ça a.
Oui, et ça, les clés, Microsoft n'est pas très...
Microsoft ne veut pas les donner.
Non. Roberto Dicosmo, effectivement, il y a ce processus classique qui est un fichier attaché à un courrier électronique. Et là, je crois quand même, le message a fini par passer que ça pouvait être dangereux, mais on entend parler de choses beaucoup plus inquiétantes, comme le simple fait d'aller sur un site internet et de pouvoir attraper un virus par la simple visite d'un site.
Oui,
alors comment c'est possible?
Mais laisse-moi revenir sur ces fichiers attachés, parce que c'est très intéressant. C'est-à-dire, une des raisons pour lesquelles la personne qui reçoit un courrier avec un document attaché clique l'idée sous-entendue, regardez, c'est que, à nouveau, pour simplifier la vision du monde informatique de l'utilisateur naïf d'un système Microsoft, et Microsoft a décidé, par exemple, qu'on vous cache ce qu'on appelle les extensions de fichiers. Vous recevez un fichier qui dit « ouvrez-moi ». Et vous savez pas que c'est un point .exe. Alors qu'est-ce que c'est un point .exe? Ben, pour les gens qui ont commencé à utiliser un peu l'ordinateur, ils savent que c'est un programme. Et c'est pas un document.
Donc vous n'avez pas du tout la même action.
Donc
que
vous cliquez dessous et automatiquement ça lance un véritable logiciel exécutable qui fait n'importe quoi avec les droits que vous avez sur la machine. Et souvent, sur machine Windows, l'utilisateur a tous les droits. Parce que c'est souvent mal configuré. Donc, vous voyez, cette tendance, c'est de simplifier, de banaliser l'instrument informatique, finit pour cacher le fait que ce n'est pas un instrument facile.
Il faut avoir le paradoxe, c'est quand même, à l'origine, une des grosses critiques qu'on faisait au système d'exploitation de Microsoft, c'était leur complexité et leur absence de convivialité. De toute façon, on faisait d'ailleurs à l'époque le comparatif avec Apple, qui avait une interface beaucoup plus facile à comprendre, beaucoup plus intuitif. Et aujourd'hui, dans votre discours, on a un peu l'impression que justement, c'est la facilité qui est la cause de l'insécurité.
Là, vous pouvez revenir en arrière de quand même presque une quinzaine d'années, hein, pour l'époque où on faisait 95, la comparaison. Et d'ailleurs, il faut pas oublier non plus que pas mal des aspects conviviaux du système Windows aujourd'hui sont quand même repris tel quel du système Macintosh ou Nextstep de l'époque, donc sans trop se soucier des problèmes des droits d'auteur et compagnie. Mais là, d'ailleurs, pour vous donner un autre exemple, essayer de vraiment les trivialiser pour l'utilisateur, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle interface de Windows XP. Moi, ça me rappelle pas mal les jouets Fisher-Price. Donc, c'est vraiment donner l'impression, sur les gros boutons, les couleurs très vifs, etc. Ça vous donne l'impression que c'est un petit jouet, il faut surtout pas se soucier, il faut pas s'inquiéter, tout va se passer très bien chez vous. Mais alors, pour revenir à la nouveauté de cet été, si vous voulez, qu'est-ce qu'il y a de vraiment spécial dans ce qui se passait en août? Moi, je me trouvais en Argentine pour des questions particulières, donc j'ai assisté à un certain nombre de catastrophes d'ordinateurs sous Windows, et j'ai eu l'occasion de lire dans la presse, un journaliste qui suit pas mal ce type de questions, pour la première fois, il était vraiment énervé. Alors, avant, c'était des articles sur les virus, là, il était vraiment énervé, on sentait que sa machine avait été touchée, ça c'était assez clair.
C'était plus personnel que d'habitude.
Lequel la différence, c'est que maintenant, on généralise les accès Internet à haute vitesse et à durée illimitée. Donc la DSL, c'est magnifique, c'est vraiment génial, parce que ça vous permet de réduire les coûts de l'accès à l'information, de faciliter l'échange d'informations. Donc essentiellement, si vous voulez, d'un point de vue humaniste, qui est mon point de vue, ça permet au meilleur développement de la culture. La culture, c'est basé sur les échanges. Si on échange plus rapidement et à un coût plus bas, on peut espérer des résultats plus efficaces. Mais ça veut dire aussi que votre machine est connectée sur Internet 24 heures sur 24. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un malin qui connaît les problèmes du système d'exploitation que vous utilisez, il ne doit plus, comme ça arrivait une fois quand vous utilisez un modem, attendre que vous connectiez sur un modem, vous retrouver, faire quelque chose, donc c'est assez compliqué. Maintenant, vous êtes exposé, vous êtes sur la place publique, tout le temps, 24 heures sur 24. Et donc les problèmes de ce type de système d'exploitation sont beaucoup plus faciles à exploiter, parce que vous n'êtes jamais déconnecté. Il y a les fils qui vous lient au reste du réseau, et à travers ces fils, les verts, qui sont la version, si vous voulez, qui a marché très bien cet été des virus, arrivent, prennent contrôle de votre machine et font n'importe quoi. Donc là, c'est qu'on entendait dans l'énervement de ces journalistes, c'est dit, mais moi je n'ai cliqué sur aucune pièce jointe, alors pourquoi ma machine est tombée en panne? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors justement, pourquoi? C'était peut-être la question de tout à l'heure sur... Le simple fait de visiter un site qui peut être
même
dangereux.
Pas. Là, vous êtes même pas nécessaire de visiter un site.
Alors, comment ça se fait? C'est juste le simple fait d'être connecté, au fond.
C'est le simple fait d'être connecté. Bon, il y a il faut savoir que votre ordinateur, quand il est connecté au réseau, il n'y a pas que l'information qui vous intéresse, que vous voyez dans votre navigateur qui circule. Il y a plein d'autres choses. Et donc, en particulier, il y a des services fournis par cet ordinateur qui sont visibles par d'autres machines sous les réseaux, même si vous n'êtes pas au courant, et qui peuvent être exploités pour rentrer dans votre machine s'il y a des défauts.
Par exemple. Et
alors, malheureusement, il y a plein de défauts.
Les services de quel type? Sont justement les services d'échange de fichiers?
Par exemple, un simple serveur web. Aujourd'hui, n'importe qui peut installer un serveur web sur une machine, hein, c'est-à-dire publier l'information sur son site, sur sa machine perso qui est effectivement connectée 24 heures sur 24, mais sans simplement imaginer qu'avoir un serveur web qui tourne sur sa machine, c'est laisser les gens pouvoir y accéder de l'extérieur avec de potentiels problèmes de sécurité. Et il y a de nombreuses attaques qui utilisent effectivement des failles de sécurité des serveurs web de Microsoft, et les gens ne se rendent pas compte effectivement qu'en étant connectés comme ça, ils laissent leur machine accessible, mais jusqu'où? Parce que le fait en plus d'utiliser un système propriétaire laisse penser que peut-être il y a certaines failles qui pourraient être volontaires à la limite. On peut se dire que finalement, au fur et à mesure, certaines failles pourraient être volontaires, tout simplement pour pouvoir accéder à la machine et voir quels sont les logiciels installés, et éventuellement voir quels sont les logiciels qui sont installés avec ou sans licence. Ça peut être, on peut imaginer jusque-là, quoi. Et pour revenir à la complexité de l'ordinateur, pour prendre simplement une image, tout le monde sait aujourd'hui qu'un avion, c'est compliqué. Pourtant, dans un ordinateur, il y a plus de composants que dans un avion, qui interagissent ensemble. Donc rien que ça laisse montrer qu'il faut faire très attention, que c'est quelque chose de très compliqué, et le fait effectivement de tenter d'infantiliser les utilisateurs en leur faisant croire qu'ils ont affaire finalement à un jeu, à un jouet, leur fait complètement oublier ce simple principe, et ça devient de plus en plus dangereux avec le fait effectivement que le haut débit se développe de plus en plus. Ils vont finalement croire qu'ils ont un jeu chez eux,
accessible,
mais ils vont oublier simplement que sur ce jeu, bah, il y a leurs données personnelles, il y a leur compte en banque, il y a un certain nombre d'informations confidentielles qui pourraient très bien se retrouver sur des sites à l'extérieur et utilisés à des fins frauduleuses.
Alors, ils se retrouvent régulièrement.
Ils se retrouvent régulièrement, oui.
Alors Frédéric Couchet, justement, peut-être pour en venir aux alternatives, est-ce que Linux, dont on parle beaucoup, qui est le grand concurrent potentiel, puisque finalement, pour l'instant, il n'est pas utilisé par le grand public, enfin, on peut pas dire, je crois.
Il est de plus en plus utilisé, le logiciel libre est de plus en plus utilisé par le grand public, en fait. Il faut voir que, d'abord, le logiciel libre existait avant que Microsoft existe, c'est quelque chose qui est très très vieux. On peut même dire que le logiciel libre existait depuis plusieurs siècles, parce que finalement, le logiciel libre, qu'est-ce que c'est? C'est la recherche scientifique appliquée au logiciel, c'est-à-dire c'est la publication, la transparence, la revue par les pairs. Donc c'est le principe de la recherche scientifique appliquée au mode de développement du logiciel. Alors, historiquement, effectivement, moi je fais une image souvent pour le logiciel libre, je dis qu'on est en train de construire en fait une ville. Et quand on construit une ville, on commence par des fondations. Et effectivement, ces dernières 20 dernières années, on a construit des fondations, c'est-à-dire des systèmes d'exploitation, les aspects réseau, infrastructure, etc., qui étaient plutôt réservés, je dirais, aux informaticiens et aux grandes entreprises. C'est pour ça que le logiciel libre a commencé à se développer dans les grandes entreprises. Aujourd'hui, dans les grandes entreprises, le logiciel libre est majoritairement présent. Et de plus en plus, on est en train de construire des petites maisons tout à fait sympathiques, avec du courrier électronique, un navigateur web, quelque chose pour faire de la bureautique comme openoffice.org par exemple. Et donc on a quasiment fini de construire une ville qui est tout à fait agréable, qui a beaucoup moins de problèmes de sécurité et qui attire de plus en plus de gens. Aujourd'hui, il est difficile de dire quel est le pourcentage d'utilisation du logiciel libre dans le grand public, parce que d'abord il n'y a pas de vente de licence, donc on ne peut pas calculer comme ça. Mais ça se développe de plus en plus, malgré les freins qui sont mis en place, comme par exemple le fait que quand vous allez dans votre magasin du coin, donc sans faire de pub, je ne citerai pas de nom, quand vous achetez un ordinateur, vous n'avez pas le choix du système d'exploitation. C'est-à-dire vous ne pouvez pas dire que je veux un autre système d'exploitation. Il est forcément livré avec Microsoft Windows. Et donc, quand vous achetez un ordinateur pour simplement installer un système libre, en fait, ça compte comme une licence Windows, qui est quand même aberrant.
Oui, ça, Roberto Di Cosmo, vous l'aviez d'ailleurs souligné, je crois.
Bah oui, j'ai oublié de vous les amener aujourd'hui, mais effectivement, si vous passez dans mon bureau, j'ai une très jolie pile de toutes les variantes Windows et compagnie qui venaient avec les ordinateurs que j'ai achetés, et vous doutez bien que je voulais pas les Windows avec.
Alors justement, d'ailleurs, Microsoft a perfectionné encore un peu ce système en maintenant ne vendant certains systèmes d'exploitation qu'avec des ordinateurs agréés par eux-mêmes. Donc c'est le nouveau système Media Center. Effectivement, c'est tout à fait différent du logiciel libre. En même temps, cette image du logiciel libre qui n'est pas conviviale. Est-ce qu'elle évolue
image,
ou
c'est une très vieille image, effectivement, valable. C'est ça date du fait que quand au moment où on a commencé à parler un peu au grand public de logiciels libres, c'était quand on peut dire 96, voilà, 97, on commençait là. Et là, c'est vrai qu'à cette époque-là, comme dit très bien Frédéric Couchet, on était en train de faire la plomberie en bas et pas vous mettre des jolies maisons avec des jolis rideaux. Donc alors maintenant, les rideaux sont arrivés, les maisons sont arrivées, et vous avez des logiciels dans les mondes libres qui sont beaucoup plus agréables à utiliser. Ça, c'est mon opinion assez objective comme utilisateur, j'utilise les deux, qui est l'équivalent sous Windows. Donc, et c'est par exemple, plutôt qu'utiliser Internet Explorer, qui est un navigateur Microsoft par défaut, essayez donc Mozilla. Donc ça marche tranquillement sur un système Windows. Vous voyez la différence entre un logiciel libre et un logiciel propriétaire. Dans le logiciel libre, vous avez la liberté de les faire fonctionner aussi sur une plateforme qui ne vous est pas forcément très sympathique, comme le cas Windows. Vous avez OpenOffice qui fonctionne sous Windows, qui est l'équivalent de Office. Essayez-le et vous verrez que c'est quand même des logiciels qui sont très agréables à utiliser.
Pour en revenir à la sécurité, quelle est la différence fondamentale qui permet à Linux d'offrir une meilleure sécurité? Peut-être qu'il faut revenir sur ce point quand même.
On y va très vite. Non, c'est très simple. C'est un système dans lequel la notion de sécurité était intégrée au moment de la conception. Unix est une simplification des travaux faits sur Multics il y a très très longtemps, donc sur les systèmes d'exploitation, où tout un tas de notions de sécurité est déjà incorporée. Donc c'est plus facile ensuite de faire évoluer un système comme ça. Et il y a une longue expérience aussi de la part des administrateurs et utilisateurs. N'empêche que ça serait faux de dire qu'il suffit d'installer sur un PC ou une machine Linux comme ça pour que magiquement, il n'y a plus jamais des systèmes, des problèmes de sécurité. Il y en a sûrement moins, mais ça ne remplace pas une formation à la sécurité qui doit venir, devenir quelque chose d'assez intégral dans notre expérience. Laissez-moi conclure juste avec un petit élément sociologique, hein, qu'on oublie souvent, parce qu'on se pose la question de savoir, oui, d'accord, les problèmes de sécurité, etc., mais pourquoi doit-il vraiment y avoir des gens aussi méchants qui passent leur temps à concevoir des virus qui vont ensuite embêter des millions de personnes sur la Terre?
C'est une bonne question.
C'est une très bonne question, parce que bon, et il suffit pas d'augmenter les cyber-policiers, quoi. C'est, faut comprendre pourquoi. Et alors, je vous donne une petite anecdote, c'est vérifier qu'un, d'une bonne expérience d'enseignant. Alors, vous savez, il y a une époque où on enseignait des étudiants auxquels on interdisait absolument d'aller se promener sur le web, on interdisait de participer à des groupes coopératifs parce qu'on disait, ah, mais non, c'est une ressource rare, l'internet, ça coûte cher, on peut pas le permettre à tout le monde. Et à cette époque-là, bah, qu'est-ce qu'ils faisaient les étudiants intelligents, qui avaient vraiment de la curiosité, qui avaient du temps libre, etc. Bah, ils passaient son temps à pirater la machine du voisin. C'était assez inévitable. Donc, si vous avez quelqu'un qui s'amuse avec la technologie, il a besoin de faire quelque chose. Et c'est la seule chose qu'on lui laissait faire, donc il faisait ça. À un moment donné, on a dit, bon, écoutez, on arrête, on change de politique, on a ouvert tout. Donc, allez-y, faites ce que vous voulez, vous êtes sur les réseaux, participez, etc. Tout a changé. Comme de la nuit au jour. Donc, on piratait plus les comptes de son copain, c'était toujours la course à qui a la plus jolie page web, à qui participe au projet les plus intéressants, qui arrive le premier à avoir son nom dans la liste de personnes qui ont modifié telle ou telle autre partie d'un logiciel libre très connu, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un certain nombre de programmeurs qui est relativement limité, de bonne qualité sur la planète, sur des centaines de milliers, mais c'est quand même limité, c'est pas 6 milliards, hein. Et ils doivent bien faire quelque chose, hein, avec leur temps libre, avec leur passion pour la technologie. Alors, si vous êtes dans un monde libre où vous avez accès à tout, où les codes sources sont disponibles, où les nombres de personnes qui participent au projet est publié, et non pas caché un grand nom qui peut être Oracle, peut être Microsoft, etc., mais où il y a pas votre nom, vous ne pouvez pas être fier de votre travail parce que c'est pas reconnu, bah, alors, qu'est-ce que vous faites? On fait le virus.
On fait des virus, alors.
Oui, justement. Oui.
Frédéric Couchet, est-ce que vous pensez, justement, donc, finalement, le développement du logiciel libre est, ce qui va permettre aux développeurs d'enfin pouvoir s'exprimer, utiliser leur don à la place de la fabrication de virus?
Bah, quelque part, tous les développeurs sont quelque part des artistes et le logiciel libre leur permet de développer leur créativité.
Et okay, un virus, c'est un logiciel libre, peut-être, en soi.
Non. Mais c'est la question de créativité est au centre du développement du logiciel libre. Et c'est aussi pour ça que ça intéresse de plus en plus de gens, notamment dans le grand public. Une des grandes caractéristiques des utilisateurs de systèmes propriétaires, c'est de s'échanger de façon illégale des fichiers, des programmes. Ce qui participe d'ailleurs au développement de virus, parce que ces programmes-là qui viennent d'un copain, on ne sait pas d'où ils viennent en fait finalement, c'est pas une source sûre. Mais dans le cas du logiciel libre, on légalise cette pratique en disant, au contraire, nous on vous encourage à échanger les programmes, simplement ces programmes vous les téléchargez directement sur des sites avec des systèmes de sécurité, sur des sources sûres, et donc là vous participez à la fois la lutte contre, je dirais, les virus, et aussi à l'élaboration d'une créativité, parce que finalement, vous allez enfin pouvoir, si vous avez envie, et beaucoup de gens ont envie, de comprendre comment fonctionne l'ordinateur, et de participer. Aujourd'hui, par exemple, faire un site web, c'est relativement simple, c'est même très simple par rapport à il y a quelques années. Il y a quelques années, il fallait écrire des codes du HTML directement. Aujourd'hui, on utilise des éditeurs de code HTML qui le font tout seul avec la souris, etc. Ben, dans le cadre du développement de logiciels, ça devient de plus en plus simple. Il y a des langages tels que PHP, par exemple, qui se développent, qui sont maîtrisés par les informaticiens, mais qui sont aussi de plus en plus maîtrisés par des utilisateurs tout simples, parce que tout simplement, pourquoi? Ils ont le code, ils peuvent voir comment ça marche, ils peuvent prendre des bouts de code ici, se dire, ah, il a implémenté telle fonctionnalité comme ça, moi je vais peut-être ajouter cette petite fonctionnalité-là et je vais l'améliorer.
Et là, vous parlez des informaticiens.
Non, je parle d'utilisateurs normaux. Moi, je connais des gens, par exemple, dans le domaine du graphisme, ils ont un système libre sous Mac, pas sous Windows, pas sous plateforme Intel, ils ont sous Mac, et ces gens-là ont commencé à développer du PHP, etc. L'un des plus gros logiciels libres actuellement qui est utilisé, qui s'appelle Spip, qui est un outil qui est développé pour faire en fait de la publication sur Internet, a été développé à la base par des gens qui avaient un souci de publication. Donc ils avaient un souci fonctionnel, ils n'étaient pas informaticiens, mais ils se sont associés avec des informaticiens, chacun travaille et ils développent cet outil de façon collaborative. Et ça marche. Et sur la convivialité, il faut quand même rappeler une chose, le logiciel libre il y a 5 ans, c'est-à-dire 98 ou avec l'annonce de Netscape, etc. Et en 2003, en termes de convivialité, tout a changé. Aujourd'hui, vous prenez une distribution Mandrake que vous achetez à la Fnac, n'importe qui.
Donc Linux vendu par
Par une société française en plus. Vous l'installez, n'importe qui peut l'installer sur sa machine. Moi je prends simplement mon exemple. Ma copine, sans que je sois intervenu, aujourd'hui utilise un système libre, alors que pourtant avant elle était folle de Windows. Et pourtant je ne l'aide pas, elle se débrouille toute seule.
Alors Roberto Di Cosmo, il va falloir conclure, nous arrivons au bout de cette émission. Malheureusement, nous n'avons pas effectivement abordé tous les aspects. Je voudrais quand même citer votre livre qui lui était avant 98 avait été très très loin dans l'analyse du phénomène. Il s'appelait Le Hold-up planétaire, paru donc chez Kalman Levy en 1998 et vous l'aviez rédigé en